Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Des animaux dans la ville, pourquoi pas? Comment penser cette cohabitation? Avec nous à partir de 12h55, la philosophe Joëlle Zask, prix Pétrarque cette année, auteur de Zoo City en cette rentrée. Mais d'abord, il fait partie de la sélection de 10 romans L'Obs France Culture, livre très attendu de cette rentrée littéraire. 6 ans après Le Royaume, Yoga arrive en librairie, l'œuvre d'un auteur doué, mélancolique, sensible et inquiet. Réalisateur et écrivain, Emmanuel Carrère est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
To get the best result of your stay here, you have to work very hard, diligently, ardently, patiently, but persistently, continuously. It is your own hard work which will give you the best fruits of your stay here. Nothing else. Your own hard work.
Inspirez, expirez. Bonjour Emmanuel Carrère.
Bonjour.
Ne cherchez pas à contrôler. Répondez à mes questions.
Déjà, pour commencer, c'est malin d'avoir trouvé ça, d'avoir mis ça, cette, qui est en fait...
Vous le reconnaissez?
Je le reconnais, j'ai entendu pas assez longtemps. En fait, ce qu'on entend là, c'est le vieux maître birman qui est mort depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, qui s'appelait Genka. Et Genka était le fondateur de cette méthode, technique, école de méditation qui s'appelle Vipassana, qui est, donc vous l'entendez, en fait, retraite ou session de méditation vipassana, on l'entend, on entend ses enregistrements de sa voix, et donc où il engage, où il guide un petit peu la méditation par petits fragments comme ça, et cette voix un peu rocailleuse et en même temps extraordinairement égale a un effet que je trouve assez assez hypnotique.
Il parle en pali, puis en anglais.
Ouais, il parle en anglais.
Il était traduit en français,
ouais,
ensuite.
Ouais, ouais. Hein.
Et vous dites, pour nous expliquer, que cette voix de la sagesse, celle de ce vieux maître birman décédé depuis, et qu'il est à la méthode Vipassana, ce qu'est BKS Iyengar, à la méthode de yoga qui porte son nom. Là, on entre déjà dans
la
subtilité
hein,
de la spiritualité, de celle que vous avez suivie. Est-ce que c'est un bon ou mauvais souvenir pour vous de réentendre cette voix-là?
Il se trouve que la session de méditation vipassana à laquelle j'avais participé il y a en 2015, c'était en janvier 2015, et pendant cette session a eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. Et comme j'étais lié d'amitié à l'un des victimes de ce massacre qui était l'économiste Bernard Maris, il se trouve que les circonstances ont fait que j'ai dû quitter cette session vipassana. Mais avant ça, ces sessions vipassana sont quelque chose d'assez exigeant puisque ça dure une dizaine de jours pendant lesquels on reste environ 8 heures par jour immobile sur un petit coussin sans parler aux autres. J'en ai plutôt un très bon souvenir. Je pense que c'est une bonne école, que c'est une bonne technique. On fait pas ça à longueur de journée, mais c'est une espèce de session intensive de méditation Bon, que je conseillerais d'ailleurs volontiers à qui aura envie de faire quelque chose de ce genre, oui.
Voilà, et ça se vit dans un espace plutôt démuni. On arrive, les poches vides, la valise contient le strict minimum, rien pour écrire, pas de quoi noter, pas de petit carnet. Une chambre qui est proche de la cellule, hein, par son
oui,
dénuement, là
oui,
encore.
Bah, c'est monacal, ça, c'est assez normal.
C'est là que le livre commence, celui que j'ai entre les mains, qui vient de paraître chez POL, celui que vous pensiez écrire à ce moment-là, ce petit livre pas prétentieux, souriant et subtil sur la pratique du yoga, racontez-vous, celui que vous avez en tête aussi pendant votre premier séjour dans ce centre. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut méditer avec un but? C'est la question que vous vous posez. Est-ce qu'on peut entamer une retraite avec l'objectif d'écrire un livre? Comment on fait pour sortir de soi quand chaque pensée, chaque observation, Emmanuel Carrère, au lieu de s'échapper, forme une phrase et puis une autre?
Vous le dites très bien. Oui, a priori, c'est contradictoire. A priori, la visée de la méditation est de se décoller un petit peu de cette espèce de flux perpétuel des pensées, de cette espèce de babil intérieur intarissable, et donc d'arriver à le regarder, à suivre son cours, son flux, sans s'y identifier. La visée d'un écrivain est plutôt de garder trace, d'arrêter les choses. Donc, a priori, c'est contradictoire. Maintenant, il y a toujours contradiction entre ce à quoi on aspire et ce qui vous retient, ce qu'on est. Donc, on vit avec ça de toute façon. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a contradiction, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire.
Mais vous
on se débrouille avec ça.
Vous particulièrement, Emmanuel Carrère, vous êtes un écrivain du jeu. Vous n'hésitez pas à engager votre jeu dans vos livres. Comment faire quand on est finalement écrivain à plein temps, à 100%, parce que vous l'êtes dans la méditation, mais vous l'êtes aussi dans la dépression, écrivain.
Dans le meilleur des cas, heureusement que je le suis aussi en écrivant, quoi, et pas seulement dans la méditation et dans la dépression. Il y a ce souci, effectivement, ce désir de garder trace et de donner forme aussi à ce qu'on a vécu, particulièrement aussi quand ce qu'on a vécu a été aussi pénible et même terrible qu'une très très lourde dépression, que ce qu'on appelle techniquement, psychiatriquement, une dépression mélancolique, qui n'est vraiment pas un cadeau. Ceux qui ont vécu ça, ont traversé ça, me comprendront. C'est toujours ce qui peut sauver d'arriver à donner forme à son expérience. Alors, si on est écrivain, c'est votre métier, mais je pense que même sans être écrivain, quoi, essayer d'arriver à mettre à distance ce qu'on a vécu en lui donnant une forme, ça peut être même celle du souvenir, du récit, d'un récit pas nécessairement écrit, ça me paraît essentiel. Ça me paraît une des choses essentielles à faire dans la vie et de sa vie.
Et pour yoga, vous diriez que quelle forme s'est imposée à vous? Est-ce que c'est celle d'une conversation? Lopes parle de confession, par exemple, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une conversation?
Oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça. J'ai l'impression que c'est un peu une... J'ai l'impression, écrivant des choses... parce que c'est un livre qui semble... aborder des choses assez disparates, si vous voulez, aussi bien une espèce de livre sur mon expérience d'une trentaine d'années du yoga, que le récit d'une lourde dépression, que le récit d'un séjour auprès du hotspot de l'Héros et de jeunes migrants. Tout ça fait, ça fait une espèce de quelque chose qui pourrait être assez, oui, assez disparate, et qui, je pense, est tout de même unifié par cette espèce de désir, au fond, de s'adresser à quelqu'un, de s'adresser au lecteur comme à un ami à qui on raconte quelque chose qu'on a vécu. Ça, c'est quelque chose à quoi j'essaye de faire, que j'aimerais être capable de faire au fond de des livres qui soient comme une espèce de, en effet, de conversation amicale, et où le lecteur ne soit, et où le lecteur d'ailleurs ne soit pas passif, soit une sorte de partenaire qui se dit ah oui tiens moi aussi, et ah oui tiens lui aussi, voilà, j'aspire à ça.
Et c'est cette incroyablement logique qui surprend toujours chez vous, Emmanuel Carrère, à se demander comment cette succession d'expériences qu'on retrouve dans yoga, mais c'était le cas aussi dans vos précédents livres, ici, cette méditation, cette dépression, l'internement, vous le racontiez, l'exil, le partage ou encore l'engagement humanitaire, comment toutes ces expériences se retrouvent rassemblées dans un même livre? Comment vous choisissez de les lier? Ou est-ce qu'il y a un fil directeur qui se tisse de lui-même?
Il y a un fil directeur, à vrai dire, c'est un peu...
C'est moi.
C'est moi, oui. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on sait à quel point l'expérience humaine, l'expérience de chacun de nous est variée, qu'on porte des choses très très différentes. Je veux dire qu'on est à la fois un type qui fait du yoga, un type qui peut avoir une dépression, un type tout de même, je sais pas, le livre précédent que j'avais fait, Le Royaume, on m'avait beaucoup reproché le fait qu'il y avait une scène porno au milieu d'un livre sur les pères de l'Église ou sur la naissance des Évangiles. Chacun d'entre nous, on est comme ça. Je veux dire, on s'intéresse à la fois aux évangiles et aux vidéos porno ou à d'autres choses. Mais enfin, on n'est pas juste... cette expérience, elle est très vaste. C'est une espèce de puzzle. Et essayer de mettre sous la même couverture, si je peux dire, des fragments d'expérience aussi variés, ça me paraît tout simplement correspondre à la réalité. À la réalité de ce qu'on vit. Il y a aussi une espèce de... Je crois profondément à une loi qui est à la fois une loi de la psychanalyse et du montage au cinéma, c'est que quand on considère deux choses en se disant, quand elles vous viennent en même temps à l'esprit et qu'on se dit qu'elles n'ont rien à voir, il y a les plus fortes chances qu'elles aient tout à voir et que ça soit exactement à leur intersection qu'il faille s'asseoir pour commencer à travailler.
Donc vous mettez rien de côté.
Ensuite il y a des choses qui disparaissent, qui
et
passent à la trappe. Parce qu'à un moment il y a un agencement, comment dire, un peu qui a une visée artistique, des choses. C'est comme le montage d'un film. Vous voyez, vous avez des kilomètres de rush, comme on dit, et de ces kilomètres de rush, vous gardez qu'une partie parce qu'il y a des choses qui sont redondantes, tout ça. Mais tout de même, on essaye d'agencer j'essaye d'agencer comme un puzzle des choses très différentes et qui ont pour trait commun d'appartenir à la même expérience humaine.
Donc il y a quand même des choses de vous-même dans ce livre que vous connaissez et que vous avez choisi de ne pas écrire, que vous n'écrirez peut-être jamais ou que vous avez rayé, raturé et mis de côté.
Bien sûr.
Parce que ça n'a pas sa place ici.
Parce que ça trouve pas sa place, voilà, ça vous pas, parce que ça pourrait blesser des gens, des choses comme ça. Donc je préfère là cette. Mais finalement, il y a peu de censure, quoi. Il y a peu de censure. Il y a des questions d'organisation du matériau.
Ce livre, Yoga, c'est aussi une ébauche d'histoire de votre folie, diagnostiquée, bipolaire. Il y a une petite substance qui peut vous aider aujourd'hui à maîtriser cette folie. Pour autant, elle continue à faire partie de vous. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une bête toujours aux aguets, pour reprendre l'expression et le titre du livre d'une de vos consoeurs, Florence Sévaux, Salle Olivier, très joli livre sur la schizophrénie d'une enfant, pour le coup, c'est autre chose. Est-ce qu'elle est là, tapie quelque part en vous, cette folie, ou est-ce que vous avez le sentiment, là, de l'avoir apprivoisée, d'en avoir fait une amie, une camarade?
Non, on l'apprivoise éventuellement provisoirement, mais que ça reste aux aguets. Ah oui. Oui, je crois. Alors, encore une fois...
Mais là, vous l'avez identifiée.
Comment ?
Elle est identifiée,
oui.
Elle est là.
Alors, ce qu'on met sous l'étiquette de trouble bipolaire, c'est en réalité une espèce d'exagération dans un sens ou dans un autre de cette fluctuation perpétuelle de l'humeur qui est notre fait à tous. Enfin, je veux dire, on a des nuages noirs, des moments
des montagnes russes.
Ensoleillés, des montagnes russes, voilà, comme vous dites. Simplement... Ce qu'on appelle trouble bipolaire, c'est quand les hauts sont vraiment trop hauts et les bas vraiment trop bas. Et ça, effectivement, ça s'apprivoise aussi chimiquement. Ça, c'est sûr qu'il y a des médicaments qui aident à écréter un petit peu, à rendre la, à faire que ça, à diminuer un peu l'amplitude, quoi, de ces variations.
Donc votre folie à vous, c'est un peu un conte de la folie ordinaire, comme dirait Bukowski.
Ordinaire, oui, tout à fait.
Tout à fait ordinaire. Pascal Quignard, on l'écoute.
Pascal Quignard. Toute cette absence d'identité, cette fragmentation, cet émiettement de l'identité crée une angoisse et dans le même temps sont un formidable voyage et un formidable plaisir. C'est très très difficile de le savoir quand on est jeune et on souffre effroyablement quand on est jeune parce qu'on sait pas, on croit qu'il faut haïr l'angoisse, mais il faut un peu l'aimer. Tenir le coup, c'est comme tenir une rampe, il y a quelque chose de l'ordre du vertige sans doute dans la panique de l'angoisse qui fait que tenir, et je pense que, comment dire, j'admire, mais faute peut-être de n'en avoir l'habitude, je ne pourrais pas composer sur un clavier. J'ai besoin de tenir un crayon, tenir un stylo parce que je tiens le coup.
Pascal Quignard, que vous citez dans ce livre Yoga, camarade.
J'aime beaucoup entendre Quignard, comme j'aime beaucoup le lire. Je trouve que c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est pas seulement le sens qu'il dit, mais il y a quelque chose. Alors là, je trouve de très très fraternel dans la façon de s'adresser à nous. Je suis touché de ce qu'il dit de l'angoisse. Je sais
l'angoisse comme un voyage. C'est
oui,
ça, je voulais vous demander.
Il le dit d'ailleurs dans son dernier livre. Il a traversé plus jeune deux très lourdes dépressions. Il sait de quoi il parle.
Pascal Quignard.
Ouais, Quignard.
J'envie mon confrère Pascal Quignard de connaître ces joies-là. Hélas, j'aime la musique sans savoir ni la jouer, ni la lire, mais la pratique du tai chi ressemble beaucoup, je crois, à celle d'un instrument ou de la voix. On pourrait dire pareil de l'écriture, Emmanuel.
Vous savez, le mot yoga qui donne son titre à ce livre et qu'on a tendance à, disons, à réduire à la pratique d'une gymnastique au demeurant très très bienfaisante qu'énormément de gens auquel énormément de gens s'adonnent, ça a quand même un sens beaucoup plus vaste qui fait que d'ailleurs je donne là puisque ça inclut la pratique des arts martiaux, de la méditation, de choses comme ça. C'est au fond, alors c'est presque trop vaste de dire que c'est tout ce à quoi on s'adonne avec une très grande persévérance, une très grande en essayant, alors c'est pas seulement ça, c'est en essayant de faire de ce travail souvent très technique un moyen d'éroder un tout petit peu cet ego tellement envahissant qui à la fois nous pourrit la vie et nous bouche l'horizon. Et donc, évidemment que la pratique d'un instrument de musique est un yoga royal. Et on peut le dire aussi, effectivement, d'un art martial, de beaucoup de choses.
Mais cet ego, vous savez, parfois, prendre une petite aiguille et le piquer pour le dégonfler, en tout cas dans vos livres, avec beaucoup d'humour, vous savez aussi le mettre de côté, en jouer, et le retourner. L'état dépressif est-il propice à l'écriture? Ça, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce qu'il l'est, en tout cas, à la lecture? Pendant votre internement, vous le racontez à Sainte-Anne, vous avez lu, vous avez appris des phrases. Je vous propose d'écouter un poème de Louise Labbé qui a compté pour vous.
Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main grief, tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur.
l'abbé, sur du Chopin, interprété par la grande pianiste Martha Argerich, cette polonaise. Emmanuel Carrère, vous êtes notre invité à l'occasion de l'apparition de votre yoga chez POL, nouveau livre, livre de cette rentrée. On aurait pu les laisser ouverts, les micros, pendant cette récitation signée Oriane Delacroix. Vous la connaissez par cœur, ces mots-là, vous les connaissez par cœur, de ce poème de Louise l'abbé. C'est une belle définition de la vie, ce qu'elle donne là.
Oui, c'est une belle définition de la vie. Enfin, c'est aussi une belle illustration du trouble bipolaire, c'est-à-dire ces variations extrêmes de, vous voyez, dès que je me sens merveilleusement, même terriblement mal, à un moment, ça se met à aller infiniment mieux. Et ensuite, quand je crois ma joie être certaine, il me remet entre mon premier malheur, il étant amour qui inconstamment me mène.
Comme dans d'autres vies que la mienne, l'un de vos livres, Emmanuel Carrère, il est question, dans celui-là, yoga, de maladie, avec cette bipolarité, de mort, avec les attentats, de justice, et donc d'injustice, avec ici la question des migrants et du déterminisme de nos vies, d'amour aussi peut-être. Il est question de la vie, tout simplement. Vous citez ces mots d'un garçon de 8 ans qui donne de ses nouvelles à sa grand-mère pendant les purges de 36 en Union soviétique. C'est cette phrase assez incroyable. « Je continue à ne pas mourir », lui dit-il. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots ?
Je me souviens que quand mon amie Ruth Zilbermann, qui m'avait envoyé cette lettre, cette phrase « Je continue à ne pas mourir » m'a sidéré, véritablement. Au point que ça a failli être le titre du livre. Je préfère qu'il s'appelle « Yoga », finalement. Mais... à un moment, c'est ce qu'on se met à faire. C'est une façon de vivre, de continuer à ne pas mourir.
Il y a longtemps, vous lui aviez consacré une monographie au cinéaste Werner Herzog. Il était sur France Culture cette semaine, à l'occasion de la sortie de son nouveau film.
Ouais, du film. Il est très étonnant.
Family Romance.
Film,
je l'ai pas vu encore. Oui, vous l'avez vu? Vous
l'avez vu? Je l'ai vu. Qui s'appelle Family Romance. Oui, c'est ça. Enfin, ça parle d'une société comme ça, une petite boîte qui fournit à des gens des parents ou des amis au Japon, quand ils en ont pas. Comme ça, on peut louer des amis, des parents. Il y a comme ça une mère qui loue pour sa fille un père, puisque le père est mort ou a disparu plutôt, et donc il y a un type qui devient son père. Puis à un moment, ça raconte aussi que se crée un lien entre la petite et son faux père, et ça devient très compliqué. Et le film est très bizarre parce que c'est un mélange de fiction, de documentaire, de choses comme ça. On ne sait jamais exactement sur quel pied danser. Enfin, c'est d'une grande liberté aussi. C'est ce que fait le genre de choses que fait Herzog aujourd'hui. En plus, c'est bricolé, quoi. C'est fait avec, c'est fait très vite. C'est lui à la caméra. Il dit lui-même que c'est un film de 1h30 qui est fait avec 3 heures de rush, quoi. Quelque chose comme ça. Très peu. Ça va à toute allure.
On peut vous louer, vous?
Est-ce que je suis à louer? Je sais pas. Je réserve ma réponse.
Il dit, Werner Herzog, sur Culture cette semaine, il y a déjà 40 ans, dans les années 80, je disais, plus il y aura de moyens de communication, plus nous serons seuls. Et je crois que ce 21e siècle sera le siècle de la grande solitude. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, je suis d'accord avec lui. Ça me paraît tout à fait vrai. J'ai un peu de mal à commenter davantage, mais ça me paraît juste, quoi.
Est-ce qu'il faut lutter contre elle, contre cette solitude ? Est-ce que c'est ce que vous avez cherché à faire aussi ?
Il y a deux choses différentes. Il y a une espèce de solitude à la fois choisie, ascétique, dans laquelle on peut vraiment faire quelque chose de nos vies, faire quelque chose, qui est aussi celle de la méditation, choses comme ça. Et puis il y a une espèce d'esseulement de face qui est en revanche tout à fait négatif, qui est quelque chose où on est réduit à une très faible et très mauvaise communication avec ses semblables, où on est esselé, où on est isolé, ce qui est pas pareil que la solitude consentie, recherchée, voilà, c'est pas pareil.
Mais le fait d'aller sur une île grecque, tenter d'aider aussi des migrants qui avaient réalisé cette grande traversée pour venir vers l'Europe, est-ce que c'est une manière de casser ces mauvaises solitudes, celles qui risquent de, à un moment, noyauter, abîmer, déchirer nos sociétés aujourd'hui, Emmanuel Carrère ? Est-ce qu'il faut apprendre à tendre la main aussi ?
Bon, pour dire la vérité, quand je suis allé dans cette île de Léros, où il y avait j'y allais plus pour m'aider moi-même que pour aider quiconque, j'allais extrêmement mal, et à un moment, et c'est de toute manière une chose qui est fréquente, et que je critique pas du tout, chez les gens engagés dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Il y a beaucoup de gens absolument fracassés, qui savent plus du tout quoi faire d'eux-mêmes, ce qui était mon cas à ce moment-là, et qui se jette à corps perdu dans cette espèce d'altruisme. Et je critique pas ça du tout. Hein. Je pense que c'est un motif, une motivation tout à fait. Enfin, c'est un moteur. Et à un moment, dans le meilleur des cas, on arrive à s'oublier soi-même et sa détresse et son un petit peu. Et en effet, à voir un peu les. Ces gens, en l'occurrence ces très jeunes gens, puisqu'il s'agissait de jeunes migrants, quand je dis jeunes, ils avaient 16-17 ans, quoi. Et à un moment, on arrive, dans le meilleur des cas, encore une fois, à se trouver vraiment devant eux, à les entendre, et peut-être à leur être un tout petit peu secourable, et pas seulement à soi.
Emmanuel Carrère, il nous reste une minute entre le précédent livre et celui-ci. Vous avez appris à taper avec 10 doigts, mais vous avez aussi perdu un éditeur. C'est le premier livre qui paraît sans lui, sans Paul Otchakovsky Laurence. Est-ce que c'est peut-être en ce sens le plus difficile, celui qui a été le plus difficile à finir, ou est-ce que maintenant, à votre âge, maintenant que vous êtes grand, vous pouvez travailler, écrire sans celui qui a été un repère pour vous depuis le début de votre parcours littéraire.
Oui, pour ce qui est de grand, première nouvelle, mais bon. non, je suis heureux que vous évoquiez la figure de Paul Otchakovsky Laurence, qui donc dirigeait la maison d'édition où j'ai publié tous mes livres. Enfin, ça fait 35 ans qu'on a passé 35 ans ensemble. Et donc, dont la mort il y a 2 ans, enfin début de 2018, a été, pour moi, comme je pense pour tous les auteurs de cette maison, enfin, ça nous a dévastés, quoi. Et alors maintenant, cette maison marche très bien. Il y a un nouvel éditeur, Frédéric Boyer, qui fait ça très très bien et en qui j'ai confiance, en qui on a confiance. Mais Paul a été pour nous tous quelque chose de, enfin, il y avait un regard, il y avait une façon de nous aimer, de désirer ce qu'on faisait, que ça, on ne retrouvera jamais. Je dis on parce que je pense que c'est notre cas à tous qui écrivions dans cette maison d'édition. Et ouais, ce que je raconte dans ce livre, c'est vraiment un souvenir des derniers moments où j'ai vu Paul. C'est que Paul s'est un jour aperçu fortuitement que je tapais à la machine avec un doigt. Ça l'a absolument laissé stupéfait. Il m'a dit, mais quoi, t'as écrit 14 livres, je sais pas combien d'articles, tout ça avec un doigt. Essaye d'écrire avec 10 doigts. Et j'ai essayé au fond de mettre en œuvre ce conseil. Et ce livre-là a été écrit peut-être pas avec 10, mais avec 8 doigts, disons.
Merci beaucoup, Emmanuel Carrère. Yoga, votre nouveau livre vient de paraître chez POL. Merci.
Merci. À vous.